On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Dacqvive, cofondateur de Mocha.care, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leurs mauvaises passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute. Bonjour Alizée.
Bonjour.
Je suis ravi de t'avoir sur ce podcast Les Secrets du Mental. Alors c'est grâce à Clément que tu as croisé sur le circuit qu'on a la chance de se parler. Donc Clément, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Et merci à toi Alizée de prendre du temps pour parler de santé mentale aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de comment est-ce que ton mental t'a aidé à aller aussi loin dans ta carrière, de comment est-ce que tu as pu te protéger de la pression, comment est-ce que tu as vécu les moments de doute peut-être. Et aussi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les réseaux sociaux qui sont parfois extrêmement violents envers les sportifs. Et ce qui m'intéresserait également, c'est qu'on parle des techniques que tu as pour prendre soin de ta santé mentale. Je sais notamment que tu pratiques depuis quelque temps la méditation. Et donc, j'aimerais bien donc, qu'on puisse revenir dessus.
Sacré programme.
Sacré programme. Mais avant ça, est-ce que je peux te laisser te présenter, tout simplement?
Alors, donc je m'appelle Alizée Cornet, j'ai 32 ans, je suis joueuse de tennis professionnelle depuis 2006. Je suis restée quasiment toute ma carrière dans le top 100. Voilà, ça fait une sacrée longévité au sein du circuit WTA. Et puis, quoi d'autre? Je suis aussi romancière, j'oublie à chaque fois de le mentionner, mais j'ai mon premier roman qui est paru aux éditions Flammarion en début d'année. Donc, j'arrive à concilier un petit peu mes deux carrières comme ça et je trouve ça très épanouissant.
Canon. Bah justement, j'ai pu un petit peu me renseigner sur ton dernier livre, donc j'aimerais bien qu'on y revienne tout à l'heure. Ce que je voulais commencer par te demander, c'était pourquoi est-ce que tu avais accepté de parler de santé mentale aujourd'hui? Alors, au-delà du fait que Clément nous ait mis en relation, mais voilà, est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi? Dans quelle mesure?
C'est un sujet qu'on a très souvent mis de côté, en fait. Je pense qu'on a un petit peu sous-estimé l'ampleur que ça pouvait avoir dans la carrière, dans la vie d'un athlète. On parle souvent, surtout en France, de tactique, de technique, de beaux gestes finalement, et tout ce qui est aspect mental et surtout tout ce qui est santé mentale, c'est devenu finalement un sujet populaire seulement depuis 2-3 ans, un sujet sur lequel on a sensibilisé les gens finalement que très récemment, alors que je pense qu'on a tous galéré à notre échelle à devenir un athlète de haut niveau avec tout ce que ça comporte, avec toute la pression, le stress, l'envie de bien faire et aussi des choses extrêmement positives, mais beaucoup de choses pas négatives, mais qui auraient pu être des parasites finalement dans notre vie. Et voilà, j'ai voulu en parler aujourd'hui parce que j'ai moi-même fait face à ce genre de problème et je les ai surmontés, tant bien que mal. Et donc voilà, si c'est pour donner, pas des conseils, mais du moins pour donner mon témoignage et expliquer aux gens que finalement, la carrière d'un athlète, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là.
Et d'autant plus dans le tennis où c'est un sport individuel, où il y a beaucoup de pression. Ce qui est assez surprenant dans le tennis, c'est du moins pour un spectateur, c'est que la joueuse ou le joueur est seul sur le terrain, il n'a même pas le droit de parler à son coach. On veut vraiment qu'il soit isolé, je veux dire, c'est les règles, c'est comme ça. Est-ce que toi, tu penses que les meilleures joueuses et joueurs de tennis sont ceux qui ont le plus gros mental, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on doit relativiser?
Non, je pense que ça a une forte corrélation, c'est sûr. Je pense même qu'il y a des joueurs qui ont certaines, entre guillemets, limites techniques et qui s'en sortent parce qu'ils ont un mental à toute épreuve, qui sont d'une résilience hors norme, qui sont très concentrés, qui sont imperméables à l'extérieur, à l'environnement, à ce qui peut se passer, qui sont très forts sur ceux qui peuvent contrôler et qui lâchent prise sur ceux qui peuvent pas contrôler. Bref, je pense que le mental, c'est pour moi, au fur et à mesure des années, j'ai compris que c'était presque le paramètre number one, alors que j'avais eu tendance à le mettre un petit peu en dernier dans ma préparation. Et c'est pour ça que j'ai appris J'ai appris à inclure la méditation et plein d'outils mentaux pour essayer de me renforcer à ce niveau-là, parce que moi, j'ai tout appris sur le tas. Et je pense que c'était peut-être un peu trop en freestyle.
Et cette idée de te mettre à la méditation, elle est venue d'où ? C'est quelqu'un qui t'a conseillé ? Tu t'en as entendu parler ? C'est un autre joueur, une autre joueuse ?
Alors déjà, ça faisait un petit moment que j'entendais Novak Djokovic faire l'apologie de la méditation, de la visualisation. Et je voyais comment ça lui réussissait, bien sûr, mais la manière dont il en parlait aussi, ça avait l'air assez séduisant d'un côté. Mais c'est vrai que c'est surtout une rencontre finalement qui m'a permis de commencer et de comprendre finalement les bienfaits de la méditation. J'ai rencontré un auteur qui s'appelle Jonathan Lehmann, qui a entre autres écrit... Ça s'appelle Journal intime d'un touriste du bonheur, voilà. D'accord. Et après avoir lu ce livre, je l'ai contacté et on a vraiment bien sympathisé. Et lui a eu vraiment un cheminement spirituel très très important. Il est parti en Inde, il a fait des voyages extraordinaires qu'il raconte à travers ce livre. Et c'est lui qui m'a mis à la méditation et en fait ça a été vraiment une évidence pour moi. Et j'ai senti les bénéfices assez rapidement dans ma carrière et même dans ma vie tout court, dans ma vie de femme.
Incroyable. Et du coup, la méditation, tu l'as intégrée dans ta routine de préparation avant un match. Tu l'as fait. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi du coup cette routine de préparation? Tu vois, comment est-ce que toi tu te prépares? Tu vois, je sais pas. On reviendra sur certains des gros gros moments de 2022. Il y en a eu beaucoup. Mais tu vois, comment est-ce que tu prépares un énorme match, typiquement à Wimbledon, sur le central?
Alors déjà, j'essaye, parce que c'est vrai qu'il faut avoir quand même une certaine discipline, c'est pas évident, mais j'essaye de méditer au moins 10-15 minutes tous les jours. Et après, juste avant les matchs, j'essaie vraiment de me prendre un temps calme d'environ 5-10 minutes pour vraiment me mettre dans ma bulle, pour visualiser ce que j'ai envie de faire sur le court, pour essayer de me calmer, de faire descendre un petit peu le niveau de stress si celui-ci est un petit peu trop élevé. Et puis voilà, je me concentre sur ma respiration, je me reconnecte au moment présent. Finalement, ce qui nous stresse le plus, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans les sports, enfin je veux dire quand on est athlète de haut niveau, c'est les projections, finalement les projections mentales qu'on peut avoir sur le futur, sur le passé, mais surtout sur le futur. Est-ce que je vais réussir à gagner? Est-ce que je vais réussir à faire un bon match? Est-ce que je vais réussir à m'exprimer, à me faire plaisir? Et au final, parfois il faut juste se reconcentrer sur le moment présent, prendre les choses comme elles viennent et agir juste sur, comme je disais tout à l'heure, les choses qu'on peut contrôler. Et moi, la méditation, c'est ça que ça m'a apporté, c'est réduire un petit peu ces projections dans le futur qui me faisaient un peu imaginer tout et n'importe quoi et souvent des scénarios catastrophes, pour vraiment être dans le jeu et être dans voilà, je suis, je fais au moment T. Donc voilà, les préparations de match, en tout cas niveau méditation, c'est vraiment juste 5-10 minutes, mais parfois c'est suffisant pour vraiment se recentrer sur soi-même et se souvenir aussi de pourquoi on fait ce sport. Je pense qu'après des années de carrière, parfois on oublie. Et ouais. J'aime bien me rappeler, me dire, là, je vais rentrer sur un central de Wimbledon. Si on m'avait dit ça quand j'avais 10 ans, qu'au bout de 16 ans, je ferais encore la même chose et j'aurais la chance de rentrer contre la numéro 1 mondiale à Wimbledon. Et là, ça me donne envie de sourire. Et là, il y a une sorte de joie qui s'installe. Et il faut se souvenir que cette joie, elle est présente à chaque étape.
Oui, carrément. Et d'autant plus que la numéro 1 mondiale, Iga Świątek, tu l'as battue à Wimbledon en 2022. Alors qu'elle était sur une série de 37 victoires consécutives, donc c'est, on peut le dire, un exploit assez historique. Là, typiquement, donc, c'était il y a quelques mois, quand tu es arrivé sur le terrain, tu avais fait de la méditation juste avant, est-ce que tu as ressenti de la pression pendant le match ou tu as réussi à être complètement dans ta bulle et à faire abstraction? Est-ce que c'est quelque chose du coup, que tu as réussi à développer de plus en plus dans ta carrière?
Alors malheureusement c'est pas aussi simple que ça, c'est un petit peu en dents de scie tout ça. Il y a des matchs où j'ai vraiment l'impression d'être dans ma bulle et qu'il peut rien m'arriver mentalement. Ça veut pas forcément dire que je vais gagner le match, quoique ce soit quand même assez lié, mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui pourrait me faire sortir de cet état de concentration extrême et vraiment je suis imperméable à tout ce qui peut se passer autour de moi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, j'ai l'impression que je peux juste exprimer mon meilleur tennis, me faire plaisir, taper dans la balle, mettre de l'intensité, en fait, mettre en place tout ce que je sais faire sans qu'il y ait de parasites extérieurs qui viennent un peu faire trembler le bras. Voilà, et c'est vrai que c'est super agréable d'être dans cet état-là. Mais après, il y a toujours des paramètres extérieurs, par exemple, ce qui peut se passer dans notre vie personnelle. Évidemment, on n'est pas des robots, donc parfois, ça prend un petit peu le pas aussi sur comment on peut se sentir sur le court. Et c'est pour ça que cette... on va dire, ces résultats un peu en dents de scie. Moi, j'ai été très constante toute ma carrière, mais j'ai un peu eu des résultats en dents de scie malgré tout. Je pense que c'est parce que j'ai pas vraiment réussi à chaque match me mettre dans cet état où, par exemple, des joueurs comme Rafael Nadal, on dirait qu'ils y arrivent à chaque match, à se mettre dans cet état de concentration et de solidité mentale qui est juste impressionnante. On se rend pas compte à quel point c'est difficile. Et moi, pour le vivre, je peux vous dire que c'est inhumain presque.
Ouais, moi, pour jouer un tout petit peu au tennis, j'ai du mal à me concentrer plus que 20 minutes. Alors, j'ai un niveau très modeste, donc j'imagine tout à fait. Et justement, tu vois, pour construire un petit peu cette force mentale, est-ce que tu as déjà eu un préparateur mental? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé au-delà de la personne, donc de l'écrivain que tu mentionnais tout à l'heure? Ou c'est vraiment toi qui l'as appris, qui l'as développé tout au long de ta carrière?
Non, j'ai jamais vraiment eu de préparateur mental. J'ai fait plusieurs essais. J'ai eu un préparateur mental pendant vraiment quelques semaines quand j'avais 20 ans. Mais ça me parlait pas du tout, en fait. Ou alors j'étais pas réceptive. C'était juste pas le moment. Parfois, il faut aussi patienter pour arriver à un moment dans sa carrière où toutes les étoiles s'alignent et on se sent prête à recevoir ce discours. Moi, j'étais pas prête. Après, j'avais essayé un petit peu de sophrologie. Ça, déjà, ça m'avait un petit peu plus parlé. Et c'est vraiment la découverte de la méditation qui, c'est pas de la préparation mentale à proprement parler, spécifique tennis. Mais pour moi, c'était exactement ce qu'il me fallait. Pour ma part, je pense que j'ai toujours eu cette résilience et ce fighting spirit et ce courage sur le court. Je pense que c'est quelque chose d'inné. Et du coup, je me suis beaucoup, beaucoup appuyée dessus. Le fait de jamais rien lâcher, de jamais abandonner, de tout donner, de me battre sur le court jusqu'au dernier point, c'est vraiment ma marque de fabrique. Et j'ai été comme ça depuis les toutes premières balles, depuis les tout premiers tournois. Donc, je pense que c'est quelque chose, ça, que j'ai pas eu à apprendre. Par contre, j'ai eu des gros problèmes de gestion de frustration. C'était vraiment dans la balance. Quand on veut tellement tout donner sur le terrain, bah, forcément, quand ça se passe pas très bien ou comme on veut, il y a une frustration assez importante qui s'installe. Et ça m'a joué beaucoup de tours, pendant mes matchs. C'était vraiment, cette réactivité émotionnelle que j'avais, qui était vraiment parfois extrême. Et ça a été, apaisé uniquement par la méditation. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens d'apaiser finalement ce feu en moi qui pouvait être très bon d'un côté et très mauvais de l'autre. Voilà, en trouvant cette stabilité à travers la méditation. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont innées, que le joueur doit développer, surtout si c'est des qualités. Et il y a des choses qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge. Et moi, c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de temps à ce niveau-là. Mais en même temps, à l'époque, je parle de ça il y a 15 ans, la préparation mentale et la santé mentale, c'était pas du tout d'actualité, encore une fois. Et ouais, je pense que les jeunes joueurs de notre époque seront peut-être sensibilisés un petit peu plus tôt à ça. Et c'est une très bonne chose.
Ouais, je te rejoins tout à fait. Et c'est vrai que toi, tu as vraiment cette capacité. Enfin, quand on voit en fait tes résultats, et notamment le fait que tu es maintenant le record du nombre de participations consécutives en Grand Chelem, à savoir 63, ça veut dire quasiment 16 ans d'affilée où tu as participé à tous les Grands Chelems. Je pense que ça illustre, comme tu disais, ton fighting spirit, le fait que tu sois toujours là, qu'il n'y a pas eu de blessure, bien sûr, mais il n'y a pas en plus de lassitude, ou du moins jamais tu as laissé s'exprimer au point de t'arrêter. Comment est-ce que t'expliques, tu vois, ce fighting spirit? Toi, tu dis que c'est inné. Comment tu l'as entretenu? Tu vois, tout à l'heure, tu parlais aussi quand tu parlais de la méditation, de pourquoi est-ce qu'on fait ce sport. Tu vois, est-ce que tu as eu des éléments de réponse qui t'ont permis de continuer, de poursuivre et de, entre guillemets, jamais t'arrêter, quoi?
Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, de la lassitude, il y en a eu. Et il y en a eu beaucoup, à beaucoup de moments de ma carrière. Okay. J'ai pensé à arrêter le tennis beaucoup de fois, en me demandant si c'était vraiment le chemin qui me rendait heureuse, si vraiment c'était ça le but de la vie, de courir après une balle de tennis, certes, mais aussi après finalement des objectifs qui s'enchaînent tellement vite. Quand on en atteint un, bah, finalement, il y en a un autre derrière. Et en fait, on est insatisfait en permanence parce que forcément, ça va tellement vite le circuit. On joue chaque semaine. La concurrence est extrême. La pression est immense. Et au final, je pense qu'il faut vraiment être équilibré et épanoui dans sa vie personnelle parce que moi, j'ai beaucoup basé mon épanouissement sur ma vie professionnelle. Et je pense que ça n'a pas été un bon calcul parce que le tennis, c'est un sport très, très demandeur et émotionnellement, on fait les montagnes russes en permanence. Et c'est obligatoire qu'il y ait la lassitude au cours d'une carrière. C'est juste que moi, j'ai eu la chance déjà d'avoir des capacités physiques plutôt bonnes qui m'ont permis de pas me blesser, de rester à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que j'ai, même quand elle était un petit peu éteinte, j'avais toujours un peu cette flamme quand même qui me disait non, mais je vais pas lâcher, même quand ça va pas, même quand j'étais à deux doigts d'arrêter et que je voulais reprendre mes études, je me disais toujours j'ai trouvé finalement ma voie. En étant joueuse de tennis. Et je suis faite pour ça. En fait, c'est un jour mon frère qui m'a dit ça, qui m'a dit souviens-toi quand même, Alizée, que tu es faite pour ça. Même quand c'est dur, même quand ça va pas, même quand t'as envie d'arrêter, il y a une sorte d'évidence finalement dans ce sport. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, mais j'aurais changé de vie pour rien au monde. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai vécu sur le circuit et ce que ça m'a fait devenir aussi en tant que personne, c'est une formation en accéléré finalement et une analyse de soi et tout ça. Enfin, le tennis, c'est quand même une école de la vie extraordinaire. Donc, je pense que la lassitude, il faut l'accepter et il faut essayer de se reposer les bonnes questions et se souvenir de l'essentiel avec ses yeux d'enfant à des moments cruciaux.
C'est génial. Et tu dis que dans cette lassitude du coup que tu as vécu, donc j'imagine comme beaucoup d'athlètes aussi, ton frère à un moment a eu un rôle assez important. Est-ce que tu as des proches qui ont eu beaucoup d'importance, c'est un peu peut-être un premier cercle qui s'est créé, qui t'a permis d'aller plus loin, de poursuivre quand tu commençais un petit peu à perdre pied?
Déjà, ma famille m'a jamais lâché. Ils ont toujours été derrière moi. J'ai toujours été le moteur de ma structure, le moteur de ma carrière, mais ils ont toujours été là pour être sûr que j'aille bien, déjà en tant que personne. Je pense que eux ont toujours mis l'humain en premier sur la joueuse de tennis, contrairement à moi qui mettais vraiment la joueuse de tennis en priorité. Je pense que ça a souvent été une erreur, mais eux, ils étaient là pour assurer mes arrières et j'ai été entourée de beaucoup beaucoup d'amour de mes parents et de mon frère. Donc ça a été vraiment ce cercle qui m'a tenue dans les moments où ça n'allait pas. Et puis j'ai envie de dire, déjà quand on a une famille qui nous soutient, qui nous aime inconditionnellement, qui nous met pas la pression. Je me considère déjà très chanceuse parce que c'est pas le cas de beaucoup d'athlètes. On voit des parents qui sont un peu extrémistes, qui poussent leurs enfants, qui perdent un petit peu leur lucidité et qui en arrivent à des comportements vraiment dangereux presque pour leurs enfants. Moi, ça a pas été le cas et je pense que c'est aussi la clé de ma longévité, c'est que j'ai eu toujours cet environnement bienveillant et plein d'amour en fait qui m'a toujours fait me souvenir que je le faisais pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, c'est vachement important.
Ouais, ça te permet d'avoir un équilibre global entre toi, tes exigences qui sont extrêmement élevées et tes familles qui d'ailleurs...
C'est ça. Pour qui je suis juste Alizée. Ils sont très fiers de moi, mais demain j'arrête, je serai toujours Alizée.
Ouais, trop bien. Et ouais, ce que je voulais aussi te demander, c'est que tu as la particularité, bah, puisque tu as fait 63 grands chelems consécutifs, d'être arrivé très tôt sur le circuit. Quand t'as eu 15 ans, t'as déjà gagné un match sur le circuit pro, ce qui est assez historique. Comment est-ce que t'as vécu cette pression à l'âge de 15 ans? Déjà, à 30 ans, c'est difficile. 30 ans ou 32 ans, c'est très difficile de la vivre et de bien la gérer. Mais à 15 ans, d'un coup, tout le monde te regarde, la presse parle de toi, le public t'attend un peu au tournant, la pression monte. J'imagine que ça va être extrêmement, enfin, c'est un défi en soi, ne serait-ce que cette pression, quoi.
Oui, et c'est sûr. Après, on la vit pas pareil à 15 ans qu'à 30 ans. Mais alors, pas du tout pareil. Moi, à 15 ans, je sortais de l'œuf et finalement, j'avais tout à prouver, j'avais rien à perdre. Personne m'attendait vraiment à ce que je fasse ce genre de résultat à 15-16 ans. Donc, au final, c'était tout bénef. J'avais ma propre ambition, mes propres envies, mais elles étaient pas aggravées entre guillemets par une pression extérieure parce que je savais qu'à 15 ans finalement je ne pouvais que surprendre. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais insouciante, complètement insouciante sur le court. Je jouais mon va-tout avec voilà ma rage, ma flamme intérieure et tout ça. Et du coup je n'ai pas de souvenirs. J'avais évidemment la boule au ventre, j'avais le stress comme avant chaque match de ma carrière, mais j'ai pas le souvenir d'avoir été vraiment écrasée par cette pression. Du moins au tout début de ma carrière. Après, ça c'est un tout petit peu compliqué quand j'ai commencé vraiment à m'installer au sommet de la pyramide. Je suis devenue numéro 1 française à 18 ans. J'étais 11e mondiale. Et là, pour le coup, les attentes n'étaient pas les mêmes. Alors que j'avais que 18 ans, donc j'avais que 3 ans de plus. Mais j'avais complètement changé de statut. J'étais passée devant Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Nathalie Deschi. J'étais numéro 1. J'étais presque dans les 10. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai eu un petit moment de solitude où je me suis dit, voilà, mais ça va presque, ça va trop vite. Est-ce que je vais réussir à tenir mon statut? Est-ce que je vais être à la hauteur? Et c'est là où mentalement, ça a commencé à se compliquer. Moi, j'ai vraiment senti un tournant dans ma carrière à 18-19 ans quand j'ai dû assumer ce statut et que peut-être que j'étais pas assez armée, justement, mentalement pour le faire. Maintenant, à 30 ans, j'ai tellement plus de recul, en fait, finalement. Ouais. Je sais tellement qu'il y a d'autres choses dans la vie et cette maturité-là, elle me fait être plus heureuse sur le terrain et je pense qu'elle me fait mieux jouer. Donc, voilà, ça évolue. C'est vraiment un organisme vivant, une carrière et on ressent tellement pas les mêmes choses en début, en milieu ou en fin. Et c'est hyper intéressant. On apprend plein de choses sur soi. Ouais.
Ouais, c'est assez canon ce que tu dis sur cette insouciance finalement qui est une certaine force que tu avais au tout début de ta carrière, que finalement, si je comprends bien, tu as reconstruit maintenant à 32 ans et qui te permet de, enfin, je sais pas si, corrige-moi. Hein.
C'est pas de l'insouciance, on va dire que c'est plus de la relativisation, je sais pas si ça se dit en français, mais ça peut s'apparenter finalement un peu à de l'insouciance, c'est juste ne plus se laisser vraiment influencer par des pressions extérieures. C'est un peu revenir finalement à l'origine, ouais. mais avec mes 15 ans de carrière, avec mes 15 ans d'expérience et aussi d'expérience en termes de, je connais beaucoup mieux les autres joueuses aussi, je les ai analysées, tout ça, et en fait toute cette expérience, toute cette maturité, je la prends avec moi sur le terrain et j'y ajoute un petit peu de mon insouciance de quand j'étais ado, puis ça fait un mix plutôt sympa. Donc c'est dommage parce que on dit toujours si jeunesse savait, si je pouvais. C'est un petit peu ce que je ressens là, c'est que je me dis, il y a des choses, si j'avais compris ça quand j'avais 20 ans, j'ai une très belle carrière, hein, mais j'aurais peut-être pu avoir une carrière encore plus incroyable.
Et tu dis du coup que tu essaies de te protéger davantage des pressions extérieures. Je sais que par exemple, Benoît Paire, il racontait lire les commentaires sur l'équipe.
Ça, c'est une la plus grosse erreur qu'on puisse faire.
Et justement, la question que je voulais poser, c'est est-ce que toi, alors, lis les commentaires, je sais pas, mais est-ce que déjà tu lis beaucoup la presse? Est-ce que tu vois, quand l'équipe sort un article sur toi, tu te dis, je préfère justement pas le lire, je préfère le lire, enfin tu vois, est-ce que...
Bon, je lis les articles positifs, parce que ça fait toujours plaisir. Là, quand j'ai eu la une de l'équipe après ma victoire sur Swiatek à Wimbledon, bah, j'étais flattée, ça m'a fait vachement plaisir et j'ai eu une double page. Et puis même en Australie, quand j'ai fait quart, j'ai aussi une double page. Et on joue aussi pour ça, pour cette reconnaissance finalement. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. On a envie d'être reconnu parmi ses pairs, mais aussi aux yeux du grand public. Et c'est vrai que cette année, j'ai fait pas mal de bons résultats en Grand Chelem. Donc je pense que j'ai gagné encore un petit peu plus en notoriété. Mais alors par contre, j'ai jamais fait l'erreur de lire les commentaires sur internet ou sur les réseaux. Enfin, tout le monde sait que c'est que des rageux en fait. Il y a pas assez, il y a pas de secret. Et si on veut se détruire le moral après un match, on va lire les commentaires. Et là, c'est l'apocalypse. Il m'est arrivé de le faire une ou deux fois. D'ailleurs, sur Twitter, j'avais posté un screenshot de quelques commentaires que j'avais reçus après une défaite en Roumanie, d'une violence incroyable. Et mais en fait, pareil. Avec l'âge, maintenant à 30 ans, je les reçois plus du tout de la même manière que quand j'avais 20 ans, que j'étais pas sûre de moi, je manquais de confiance, je prenais pour argent comptant tout ce qu'on me disait. Là, limite, ça me fait rire, en fait, parce que c'est des gens, quand même, ils font un peu pitié, en fait, quand on y pense. Nous, on a une vie de rêve, on vit de notre passion. Certes, on a beaucoup de pression, on doit dealer avec beaucoup de stress et tout ça, mais c'est pas nous qui sommes assez pathétiques pour prendre le temps d'insulter des gens derrière notre écran. C'est quand même, on arrive à un niveau de pathos qui est quand même, et moi, ça me fait de la peine pour eux. Je me dis, voilà, les gars, franchement, vous avez pas grand chose à faire dans votre vie. Et du coup, ça me fait rigoler parce que c'est tellement extrême. Des fois, c'est tellement méchant, violent que, donc voilà, maintenant, je le prends plus du tout de la même manière. Je dis pas que ça devrait exister. Ça devrait être banni. On devrait trouver des moyens pour que les athlètes n'aient pas à faire face à ça, mais d'un autre côté, quand je le lis maintenant, je me dis bon, ça fait partie du truc et ça, on va avoir du mal à exterminer ce genre de commentaires, quoi.
Et en plus, t'avais réussi à réagir avec humour quand t'avais partagé les agressions que t'as reçues. À chaque fois, tu mettais aussi ta réponse qui était un petit peu tout en dérision. C'était assez bien joué, je trouvais. Et ça montrait le recul que t'avais réussi à prendre. Alors que je pense que c'est pas facile parce que c'était quand même extrêmement violent pour les avoir relus récemment, quoi. Et une question que je voulais te poser, c'est que, bah, en tant que sportif de haut niveau, il y a nécessairement beaucoup de défaites, tu vois, dans un parcours. Je veux dire, pendant un match, statistiquement, il y a une personne sur deux qui perd. Donc, assez vite, en fait, les défaites viennent réguler la vie d'un sportif ou d'une sportive. Tout à l'heure, tu as dit, moi, quand j'ai des défaites, j'avais un peu de mal à les vivre, à accepter ça. Et en même temps, quand on écoute un Patrick Mouratoglou, il explique que ce qui fait les grands champions ou les grandes championnes, c'est leur haine de la défaite. C'est ça aussi qui peut te tirer vers le haut. Comment est-ce que toi, finalement, tu as réussi à construire ta relation avec la défaite? Quel rapport, tu vois, tu as réussi à instaurer avec elle?
Alors moi, je vais être complètement honnête avec vous, enfin avec toi, avec vous, ceux qui m'écoutez. J'ai une relation avec la défaite qui a été absolument horrible toute ma carrière. À chaque défaite, quasiment à chaque défaite, c'est mon monde qui s'écroule. Alors ça peut être pour une soirée, une journée, deux jours. Parfois, c'est des défaites qui viennent me hanter pendant une semaine. Quand on perd avec balle de match, des choses comme ça, c'est limite des cauchemars, c'est pas des crises d'angoisse, mais vraiment, il y a des défaites qui te poursuivent longtemps, longtemps. Et comme tu dis, on a tendance à... Enfin, on joue toutes les semaines, donc on a tendance à faire face à la défaite très, très régulièrement. Donc en fait, il faut savoir la détester, oui, mais savoir rebondir et s'en servir pour avancer. Bon, ça, c'est super dur, mais... Moi, comme j'ai toujours eu de l'ambition pour être meilleure, pour me remettre au travail rapidement, en fait, je m'en servais pour alimenter finalement mon ambition, pour me dire mais je vais progresser et je vais retourner au travail. Et même quand c'était dur des fois et que j'avais pas envie d'y retourner, je me levais le matin et j'allais m'entraîner et j'évacuais comme ça finalement en passant du temps sur le terrain et en essayant de rebondir. Mais j'ai toujours eu une relation très compliquée avec la défaite et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais du mal à rester dans l'instant présent. Parce qu'en fait, quand j'étais sur un cours, j'avais tellement peur, finalement, des fois, de perdre que je perdais le fil de mon match. Et j'étais en proie à des émotions vraiment très, très fortes parce que j'anticipais ce moment où potentiellement je pouvais perdre et je savais que j'allais au fond du trou. Et au final, il s'est passé un truc cette année qui a changé ma vie. Et du coup, j'ai plus du tout le même rapport à la défaite. Alors, on peut dire c'est un mal pour un bien et c'est le cas. C'est qu'en fait, j'ai eu une rupture amoureuse hyper douloureuse. Je suis restée 8 ans avec mon copain et ça s'est terminé en mai. Et en fait, à partir de là, j'ai réalisé à quel point une défaite, ça représentait rien dans une vie, en fait. Quand on fait face à une douleur qui est tellement plus importante qu'une défaite, eh ben là, on relativise tout de suite. Donc là, en fait, en une heure, quand je perds, mais j'ai oublié, quoi. C'est radical, hein, vraiment. En fait, j'ai tellement souffert de cette rupture et j'en souffre toujours actuellement que vraiment, je suis sur le terrain, je joue, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas bien, tant pis. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai eu des bons résultats des fois sur le terrain. C'est parce qu'en fait, finalement, je lâchais prise sur le résultat en me disant, non, mais de toute façon, même si je perds, j'aurai jamais aussi mal qu'à cause de ma rupture. Et donc, en fait, il y a eu vraiment... Je me suis détachée de tout ça. Et c'est une belle leçon de vie, quoi. Finalement, voilà, je me suis rendu compte que le meilleur moyen d'avoir des résultats, bah, c'est de pas trop donner d'importance aux résultats. Bah, c'est quand même assez paradoxal. Et il a fallu que j'ai une grosse peine de cœur pour mettre tout ça, finalement, en perspective. Voilà, c'est ouais, hyper intéressant.
Et ça qui te permet du coup de relativiser, comme tu l'as dit tout à l'heure, de prendre du recul, parce qu'en fait, par rapport à ce que tu as pu vivre, c'est finalement pas grand-chose.
C'est que du sport. Alors je m'investis énormément, je donne toute ma vie à ce sport, je m'entraîne tous les jours, je m'investis émotionnellement, mais finalement, ça reste une défaite ou ça reste une victoire. Et même quand j'ai gagné Suatec, finalement, c'est incroyable parce que ça m'avait jamais fait ça. J'ai gagné Suatec et mais une demi-heure après, mais j'étais même pas contente, mais j'étais contente, mais genre j'étais déjà passée à autre chose, quoi. J'allais bouffer mon truc et c'était fini, quoi. Et tout le monde m'en parlait, ah, t'as gagné Suatec. Et j'étais là, ouais, c'est cool, mais en fait, tu vois, moi je suis en train de vivre ma rupture et en fait, je m'en fous, quoi. Et c'était vraiment, vraiment particulier comme période, là, ces 5 mois. J'ai appris des choses sur moi qui m'ont surprise et comme quoi on peut tirer des leçons de choses douloureuses et c'est ce qui se passe aussi dans le tennis quand on traverse des moments très durs dans une carrière, ça ouvre toujours la porte à autre chose finalement si on arrive à s'en servir.
Ah, trop bien, je pense que c'est un message super positif ce que tu viens de nous partager. Et est-ce que tout à l'heure tu nous as dit qu'il y avait des moments qui avaient été assez durs? Peut-être que tu n'avais pas encore cette maturité, hein, ou cette capacité à relativiser, de prendre avec autant de recul les réseaux sociaux ou alors les défaites. Est-ce qu'il y a eu ces moments du coup où T'as hésité à arrêter le tennis, t'en as parlé tout à l'heure, ces gros moments de doute. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux un peu nous en parler?
Quand je suis montée à mon meilleur classement à 19 ans, j'étais 11e mondiale. Et là, j'ai commencé à perdre un petit peu, de plus en plus, à perdre confiance en moi et tout ça. Là, j'ai pris une première grosse claque parce qu'en fait, j'avais une progression ascendante assez fulgurante jusqu'à ce point-là. Et puis d'un coup, je faisais vraiment face à l'échec, entre guillemets, parce que c'était pas un échec, mais en fait, à mes yeux, je m'étais mis la barre tellement haute que ça représentait un échec. Donc ça, j'ai commencé à très mal le vivre. J'ai même fait, je pense avec du recul, une petite dépression, à mon avis, de quelques mois. Mais en fait, ce qui m'a tenue un petit peu, c'est ma théorie à moi, mais c'est que il y a eu un peu de lâcheté, entre guillemets. C'est pas très positif, mais en fait, j'avais peur de faire autre chose de ma vie. En fait, le tennis a toujours été tellement présent que c'est pas si facile que ça de dire bon, bah, j'arrête, quoi. Et la preuve, c'est qu'il y a plein de joueurs, et on parlait de Benoît tout à l'heure, je l'ai déjà entendu dire plein de fois qu'il allait arrêter le tennis, mais c'est pas si facile en fait, parce que c'est ce qu'on connaît depuis toujours, on s'est beaucoup investi, on aime ça malgré tout, même quand on déteste ça, il y a toujours un amour un peu, je t'aime, je te hais, mais il est quand même là. Et au final, on continue parce que on n'a pas forcément envie de faire autre chose et on n'a pas forcément envie de continuer à se faire du mal non plus. Donc, on a un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, et ça, c'est des périodes vraiment compliquées. Mais pourquoi on continue? Parce que l'espoir fait vivre. On se dit, mais ça va tourner, le vent va tourner, on va retrouver le chemin de la victoire, on va de nouveau se faire plaisir. Et au final, c'est vrai, ça prend du temps, mais au bout d'un moment, moi, j'ai changé des choses dans ma structure, j'ai changé d'entraîneur, et puis voilà, j'ai rebondi, je suis remontée, ça a pris presque 3 ans. Mais je regrette pas d'être passée par là parce que ça m'a rendue plus forte pour la suite aussi. Donc voilà, il faut parfois laisser passer les orages en essayant de pas trop paniquer. Ça a pas été trop mon fort. Moi, j'ai eu tendance à paniquer rapidement.
Et ce que tu dis, je pense que ça fait pas mal écho à ce que dit Michael Phelps dans le fait que post-Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'athlètes qui fassent une dépression parce que on se construit identité autour de un événement. Et en fait, je suis un athlète de haut niveau pour cet événement. Et quand du coup, l'événement est passé,
ça doit être terrible.
Il y a un peu, voilà, un énorme vide qui se crée. Et toi, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, je suis pas juste une joueuse de tennis. Je suis autre chose. Et notamment, je suis devenu écrivain, romancière. Du coup, tu as écrit La Valse des Jours, donc un roman qui est inspiré par des histoires vraies dans ta famille et notamment les femmes dont tu es proche. Comment est-ce qu'on arrive déjà, première question sur ce sujet, à écrire un livre alors que tu as une vie qui est extrêmement remplie entre les entraînements, les dépassements, les matchs, les compétitions, les préparations mentales? Est-ce que ça, dans une certaine mesure, tu vois, on pourrait se dire ça va rajouter de la charge mentale, tu vois?
Ou ça va plutôt me décharger de beaucoup de pression, beaucoup de choses. Déjà, pour revenir à ce que tu disais, moi, jusqu'à très très tard, je me suis identifiée à la joueuse de tennis que j'étais. Et c'est pour ça que le mal-être, il était latent. C'est parce que quand je gagnais, j'étais une bonne personne. Et quand je perdais, j'étais une merde, entre guillemets. Donc forcément, quand on s'identifie autant à ses résultats, en fait, on sait jamais vraiment qui on est. Et ça, c'est très douloureux en tant qu'ado et même en tant que jeune femme. De s'identifier seulement à ce qu'on fait, c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre un petit peu plus tôt. Et concernant le livre, ouais, en fait, déjà, je m'étais fait pas mal la main avec mon premier livre qui s'appelle Sans compromis, qui était un carnet de bord autobiographique que j'avais écrit en 2018 pour faire rentrer un petit peu les gens dans ma vie et dans les coulisses finalement d'une vie de joueuse de tennis. Mais avec mes mots, c'est moi qui ai voulu l'écrire. Avec mes mots, avec mes anecdotes, avec une construction un petit peu spéciale, avec des flashbacks et tout ça. Et le livre, il a beaucoup plu. Tous les gens qui l'ont lu m'ont dit que c'était vraiment super, que c'était frais, que ça changeait de ton, que c'était hyper spécial aussi, que ce soit l'athlète lui-même qui l'ait écrit. Et pas, on voit beaucoup d'athlètes qui écrivent, entre guillemets, mais ils sont aidés évidemment par des prêts de plume. Moi, c'était mes mots et j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce bouquin. Et du coup, je me suis mis un challenge un peu plus fort, qui était celui d'écrire un roman, qui était un rêve de gamine. Et j'ai mis effectivement un an pour l'écrire. Et quand j'ai envoyé le manuscrit à la maison d'édition Flammarion, ils m'ont signé dans la semaine, ils sont tombés amoureux du manuscrit. Et c'est comme ça que ma carrière de romancière a démarré, mais vraiment sans que je m'y attende du tout. Alors pour le coup, le tennis, c'était presque quelque chose d'écrit. J'étais faite pour ça, machin. Autant être romancière, peut-être que je savais que j'en étais capable au fond de moi, mais que ça arrive aussi vite, après seulement un manuscrit, après un essai, et que le livre se vende bien et qu'on me dise que tous les gens qui l'ont lu ont pleuré à la fin. Enfin, j'ai des commentaires vraiment hyper cool. Ça, c'était inattendu. Et j'écris tout simplement quand j'ai le temps. Donc, en fait, dans les avions, la plupart, dans les avions, dans les trains, dans les transports, en fait, parce que c'est là où j'ai le plus de temps creux.
Et t'arrives à rentrer dans ta bulle en déplacement?
Dans les avions, vachement, ouais. Parce que les lumières tamisent à un moment donné. Sur les longs courriers, quand tu vas 24 heures en... Tu mets 24 heures pour aller en Australie et voilà, t'as 24 heures de vol où tu peux soit choisir de regarder des films ou de dormir. Mais moi, j'écrivais. Et parfois, entre les matchs, même des fois, après les matchs, ça me faisait juste m'évader, en fait. Et j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de cet échappatoire du tennis qui prenait trop de place presque. Et là, je partais dans mes histoires, dans mon imagination. Et je pense que ma créativité, elle a vraiment été... elle a été exploitée du mieux possible et ça m'a fait beaucoup de bien en fait pour me dire mais il y a plein d'autres choses que je sais faire en fait et donc ça c'était cool.
Ah, génial. Et est-ce que ça a joué un rôle dans le changement de regard que tu te portes? J'ai lu une interview dans Le Monde où tu disais que tu considérais avoir manqué d'amour propre envers toi-même, que tu étais extrêmement exigeante, toujours à vouloir plus, que tu te satisfaisais un petit peu de rien. Et que ça avait changé. Est-ce que le fait de devenir romancière, ça a pu jouer un rôle ou pas?
Je pense que j'avais déjà commencé le travail un petit peu avant, justement grâce à Jonathan Lehmann, celui qui m'a appris la méditation. On avait aussi beaucoup bossé sur cette notion d'amour de soi. Justement parce que la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir je m'identifie à ce que je fais, tout ça, on voyait que c'était pas sain. Et donc on avait travaillé là-dessus pour vraiment détacher les deux choses, la joueuse de tennis et la personne. Et donc en 2018, j'avais déjà commencé à faire ce travail de m'aimer en tant que joueuse aussi, malgré le résultat, de m'aimer en tant que personne. Et donc, en fait, ça a été la continuité après le fait de me voir en tant que romancière. C'est surtout que ça me rassure aussi pour l'après-carrière, parce que là, j'arrive vers la fin de ma carrière et je me dis que j'ai potentiellement des trucs super chouettes qui m'attendent. Mmh. Et donc, ça rend l'après-carrière un petit peu moins angoissante et je me dis que j'aurai peut-être d'autres opportunités encore que l'écriture et que ce sera le début de ma deuxième vie. Donc, c'est cool.
Trop bien. Bah, écoute, en tant que supporter, j'espère que tu continueras encore à ta carrière, mais...
Ouais, tout a une fin. On l'a vu avec Roger, même quand on veut pas, à un moment donné.
Ouais, c'est vrai. J'ai vu aussi qu'il y avait, au-delà de la méditation, tu avais pratiqué l'hypnose.
Ah oui, tout à fait, j'ai oublié d'en parler.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as apprécié?
Ouais, j'étais un peu touche à tout. C'est vrai que j'ai cherché c'est vraiment marquant parce que j'ai cherché des outils quand même. J'étais à la recherche de comment est-ce que je peux m'améliorer là-dessus, parce que je sentais que c'était un maillon faible chez moi, cet aspect mental. Enfin, je pense être quelqu'un de fort mentalement dans ma détermination, mais dans ma gestion des émotions, c'était clairement un maillon faible. Et du coup, à un moment donné, quand j'ai senti que ma pratique de la méditation m'avait amené à une certaine limite, on a justement cherché avec mon ex-compagnon Michael d'autres solutions. Et là, on s'est dit, bah en fait, pourquoi pas l'hypnose? Et on est allé voir sur Internet. On a trouvé un gars qui est un pont en la matière, qui s'appelle Kevin Finel et que j'embrasse et qui... Je lui ai pas donné de nouvelles depuis un moment, mais je pense très souvent à lui et je pense qu'il a été... il a été en grande partie responsable de cette très bonne année et demie que je viens d'avoir. Parce que l'hypnose, c'est quelque chose d'un peu particulier, presque un peu irrationnel. En fait, c'est très rationnel, mais... Quand on n'en a jamais fait, on se dit « mais c'est quoi ce truc de charlatan ?» Mais en fait, pas du tout. Et moi, je suis très contente d'avoir essayé. Déjà, ça m'a ouvert l'esprit sur cette pratique-là. Et ça a clairement débloqué des choses en moi qui étaient verrouillées depuis très longtemps et qu'on ne peut accéder qu'en allant directement parler à son inconscient. Et finalement, le thérapeute, l'hypnothérapeute, il est là pour justement faire en sorte que l'inconscient aille sur le devant de la scène et qu'on puisse finalement travailler dessus, parce que depuis qu'on est né, on en a des croyances, des verrous qui se sont installés, et pour les faire péter, c'est très 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 dur. Et moi, ça m'a beaucoup beaucoup parlé, beaucoup aidé. Là, j'en ai pas fait depuis un moment et je sens que ça me manque. Je sens que mon inconscient a besoin d'être dorloté un petit peu.
OK. Non, mais c'est d'autant plus que quand on parle d'hypnose, souvent on pense à l'hypnose de spectacle.
Oui.
Les personnes voilà, qui vont se faire, entre guillemets, complètement hypnotisées par l'hypnothérapeute et qui sont plutôt en contrôle de ce qu'ils font. Alors que finalement, l'hypnothérapie, c'est très différent de ça. C'est quasiment, j'ai envie de dire, rien à voir.
C'est très doux.
C'est, voilà, c'est extrêmement doux et c'est, ça se fait toujours en accord avec la personne qui reçoit. Donc je pense que ça permet d'apporter un regard un peu plus moderne, un peu plus...
Tout à fait. Moi, je recommande vraiment à 100%. C'est comme un état méditatif un peu poussé, en fait, avec la voix de quelqu'un et qui cherche et qui trouve les bons mots voilà, pour parler à notre esprit. Et c'est... Non, ça a été vraiment une révélation. Je suis très contente d'avoir creusé sur ce terrain-là.
Trop bien. Et une question que je vais te poser aussi, c'est quand tu arrives, mais j'ai l'impression que c'est plutôt non la réponse, mais dis-moi si je me trompe, quand tu arrives devant un grand match, du coup typiquement comme Serena Williams, que tu as battu à 3 reprises dans ta carrière, j'ai l'impression que le numéro 1 mondial, c'est...
On appelle la coupeuse de tête.
Est-ce que tu te prépares différemment à un match comme ça, tu vois? Je veux dire, il y a tous les regards qui sont braqués sur toi, tout le monde qui te regarde, numéro 1 mondial, si la personne numéro 1 mondial, c'est pas par hasard. Toi, tu arrives sur le match, enfin sur le terrain, tu arrives à battre Serena à 3 fois quand même, c'est quand même énormissime. Est-ce que tu as fait des choses différemment ou finalement c'est vraiment du travail au long cours qui a payé?
Oui, je pense que c'est plutôt oui, c'est récolter finalement les fruits de son travail, mais je me souviens pas avoir préparé mes matchs différemment. Et en fait, je pense que justement, c'est parce que les regards étaient pas braqués sur moi que ça a marché aussi bien. Je pense que je joue jamais aussi bien que quand je suis l'underdog, comme on dit en anglais. Je suis pas la favorite et finalement, je peux que créer la surprise. Là, c'est vraiment une situation que je kiffe particulièrement. Finalement, je crée la surprise tellement souvent que maintenant, je suis presque favorite dans ces moments-là. Genre quand j'ai joué Raducanu à l'US Open, je pense que la cote était plus pour moi, enfin contre moi que pour moi, parce que les gens s'attendaient finalement à ce que je crée encore l'exploit à battre une tête de série. Ouais. Parce que c'est vraiment des situations où justement, moi, j'attends pas grand-chose de moi. Et j'imagine que les gens non plus, puisque je suis pas favorite. Et là, dans ce cas-là, il y a vraiment le plaisir de jouer, je joue plus libéré, il y a un peu plus de plaisir. C'est jamais facile d'être le favori. C'est jamais facile, c'est pas une situation confortable. Et quand je rentre sur le court pour jouer Serena Williams, oui, j'ai très envie de gagner, mais au final, les regards, ils sont pas braqués sur moi, ils sont sur Serena. Et ça, c'est quand on arrive à tirer parti de ces situations-là, comme j'ai réussi à le faire, c'est hyper. C'est les meilleurs souvenirs de ma carrière, clairement. Donc, mais pas de préparation particulière pour ce genre d'événement, non.
Et quel rapport tu mettrais entre le plaisir et la performance, tu vois. La question que je me pose, c'est est-ce que parfois, en fait, pour surperformer, il ne faut pas, entre guillemets, mettre de côté la notion de plaisir? Ou est-ce... Et en même temps, parfois, on a l'impression, toi, quand on t'écoute, tu dis, là, j'étais à fond, j'oubliais tout, je me sentais bien. C'est ça qui m'a permis de me libérer et de performer in fine, tu vois. Ouais. Où est-ce que tu mettrais le curseur, toi?
En fait, déjà, je pense qu'il faut... Il faut accepter la souffrance physique, donc on peut pas se faire plaisir tout le temps. Il y a quand même beaucoup de souffrance physique quand on fait du tennis, surtout. C'est un sport hyper hyper demandeur, hyper contraignant. Il faut être fort dans tous les domaines, il faut être souple, explosif, endurant, puissant. Enfin, il faut tout travailler. Donc, on a tendance à beaucoup travailler, à se faire très mal pour arriver à optimiser nos capacités physiques. Ça, c'est pas vraiment du plaisir, hein, on va pas se le cacher. Mais après, une fois qu'on est sur le court, et même dans cette souffrance physique, finalement, et parfois dans cette souffrance émotionnelle, il peut quand même y avoir... alors, c'est pas du plaisir, genre on va manger un pain au chocolat le matin, mais c'est comme un rush d'adrénaline qui fait qu'en fait, on sent qu'on est en train de vivre un moment spécial. En fait, je pense que c'est tout ça qu'on recherche dans la vie, c'est vivre des moments qui sont un peu hors du commun. Et quand on est sur le court, moi, c'est ça, c'est vraiment cette impression-là, c'est que je vis des moments rares et exceptionnels, et c'est ça qui procure le plaisir. Et c'est pas vraiment du plaisir à proprement parler, mais c'est finalement juste la symbolique de ce qu'on est en train de vivre.
Ouais, de t'es là, t'es à Roland-Garros et hop, tu te bats pour...
Et même si parfois j'ai le nœud au ventre et que j'ai qu'une envie, c'est de sortir du court parce que je vois que je joue pas bien ou je psychote sur les attentes qu'on peut avoir, j'ai peur de décevoir ma famille. Enfin, il y a beaucoup de pensées qui arrivent. Mais il y a quand même aussi, je regarde autour de moi, putain, je suis à Roland-Garros. Je suis en train de vivre mon rêve d'enfant. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et voilà, ça, c'est ce recul. Il est pas facile à prendre quand on est en plein dans l'action, quoi.
Et quand tu fais un changement de côté, Tu vois que t'es Roland Garros, je sais pas, tu viens de te faire breaker, ça se passe pas super bien, tu sens que le public, tu vois, est moins chaud. Tu t'assois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu vois, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
Là, je pense que c'est vraiment le moment pour se reconnecter vraiment au moment présent, quoi, et se dire aux choses simples finalement. Je fais de mon mieux, je me concentre sur chaque point, même des mots-clés finalement que je me répète moi très souvent, mais je mets de l'intensité, je bouge les jambes, je crie sur les frappes, même.
T'as des mantras un peu comme ça?
Ouais, des mantras, des mots-clés qui me recentrent. Et parce que sinon,
tu peux
c'est
nous
la
en
panique.
Partager un de mantra ou pas?
Oh bah je viens de les dire, hein,
Ah,
c'est
c'est tout
vraiment des
ça
trucs
là.
tout simples.
Ouais.
Ouais, c'est moment présent. Après, je me dis des trucs des
Ok.
fois un peu techniques pour me recentrer aussi, mais c'est souvent des choses toutes simples, hein. Ça dépend de comment ce que je fais sur le terrain, mais ça peut vraiment être crier sur chaque frappe, mettre de l'intensité. Qu'est-ce que je peux me dire d'autre? Vraiment, en fait, des trucs où c'est comme une bouée de sauvetage, quoi. C'est simple, mais je peux m'y raccrocher, ne penser qu'à ça, et mon esprit comme ça, il a un point d'ancrage et il est pas là à se dire oh là là, mais je suis en train de faire n'importe quoi devant des milliers de personnes, voire des millions à la télé. Parce que si on commence à penser à ça, c'est mortadelle, là. Il faut pas aller jusque-là. Donc, voilà, ça permet juste de pas trop dériver, quoi.
Ok, trop bien. On se rapproche de la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet où tu te dis, tiens, c'est dommage, on l'a pas adressé, ou peut-être quelque chose que tu as envie de nous partager, ou pas du tout?
En fait, moi, j'aimerais juste adresser un message peut-être aux jeunes joueurs, parce que moi, j'ai fait entre guillemets, des erreurs quand j'étais jeune, et j'aurais aimé avoir un mentor ou une mentor, une joueuse qui vienne me voir et qui me dise, qui me donne une ligne conductrice. Ou c'est vrai que dans le tennis, c'est un sport très solitaire, très individuel, et on n'est pas du genre à s'entraider trop, quoi. Alors là, ça va un petit peu mieux ces dernières années avec la nouvelle génération. C'est beaucoup plus bon esprit et l'ambiance dans les vestiaires est bien meilleure. Mais moi, quand j'ai commencé le tennis, c'était pas du tout comme ça et c'était chacun pour sa poire. Et finalement, les jeunes joueuses comme moi, j'ai jamais vraiment eu de joueuses qui puissent m'épauler ou m'aider un peu dans ma construction. Donc moi, j'aime bien. Je suis toujours ouverte pour répondre aux questions des jeunes joueuses quand elles osent venir vers moi, qu'elles se sentent assez en confiance pour me poser des questions. Je suis toujours à l'écoute et je suis toujours prête à donner mon expertise et mon expérience. Mais du coup, si j'avais juste un petit conseil à des jeunes athlètes, même pas que joueurs de tennis, mais des jeunes athlètes qui veulent devenir pro, c'est vraiment de se souvenir de qui on est, déjà de pourquoi on fait ce sport, et de se souvenir de qui on est en fait profondément, de qui on aime, des gens qui nous soutiennent, des gens qu'on a autour de nous. On est tellement omnibulé par notre sport qu'on a tendance à tout délaisser en fait. Moi, j'ai tout délaissé, tout mon monde pendant des années à tourner autour du tennis, autour de moi. C'est très égocentrique finalement d'être athlète. Et je pense qu'il faut juste pas oublier que la vraie vie, elle n'est pas là, malheureusement. Et ça, on s'en rend compte tard. Donc voilà, ne pas oublier de prendre soin de sa famille, de ses amis, de ne pas négliger l'humain. Parce que finalement, l'humain, en dehors des résultats, c'est quand même ça qui nous reste toute la vie. Et voilà, un message un petit peu pour dire que on peut être dans la surperformance, dans l'ambition, dans l'envie de bien faire. Et je pense qu'on est obligé pour devenir un champion. Mais je pense aussi qu'on peut quand même avoir des valeurs comme des joueurs comme Rafa, Roger, qui ont de belles valeurs humaines,
Ouais.
et ça ne rend le champion que plus exceptionnel.
Et ça, il n'y a pas eu on va dire un peu d'entraide entre joueurs masculins et joueuses féminines, dans le sens où il y a moins de compétition directe, tu vois.
Maintenant, oui, mais quand j'étais plus jeune, après, peut-être moi, j'osais pas non plus, j'avais peur de gêner,
Ouais.
j'avais peur de les déranger, mais j'ai jamais vraiment, à part Gilles Simon, qui a été vraiment le seul qui m'a toujours tendu la main
Ok.
pour toujours me donner des conseils. Lui, il aime beaucoup parler en plus et partager son amour du jeu. Et c'est vrai qu'il a des analyses toujours hyper pointues et tout ça. Gilles m'a pris sous son aile assez rapidement, et c'est déjà très bien. En fait, il n'y a pas de
Ouais.
mais. Il suffit d'une personne parfois pour se sentir accepté, se sentir bien accueilli sur le circuit. Donc, j'ai déjà eu de la chance d'avoir eu Gilles.
Ah bah c'est canon. Et il y a un psychologue du sport dont j'ai déjà parlé sur ce podcast qui s'appelle Makis
Ouais, Maki, on le connaît tous.
Chamalidis. Bah, trop bien. Et Makis, il me disait, il y a quelque chose qui est assez important dans le parcours d'un athlète de haut niveau, c'est qu'à un moment, il arrive à dire, coach, j'ai peur. J'ai une vraie peur. Est-ce que toi, tu as déjà réussi, alors soit à Gilles, soit à une autre personne, à dire à quelqu'un, Waouh, là juste, en ce moment j'ai peur, mon match de demain j'ai...
Moi je le dis tout le temps, hein. Ouais. Ah ouais, non, j'ai pas honte d'avoir peur, hein. Je peur tout le temps, moi je suis une grande peureuse. Non, j'ai jamais eu ce tabou de dire il faut que je me montre forte, ouais. Parce que je sais que j'ai de la force, et je sais que j'ai toujours compris que la peur ça faisait partie du jeu, et qu'on l'avait tous et qu'on le cachait juste plus ou moins bien en fait. Mais moi j'ai jamais hésité à le dire à ma famille, à mes coachs. J'ai peur, je tremble, je stresse. Et je pense que le fait de l'exprimer, déjà, ça enlève un petit peu de son influence. Donc,
ouais, on accepte un petit peu.
Ouais, ouais, il y a une sorte d'acceptation. Après, moi, en fait, j'aurais juste aimé comprendre que sur le terrain, il fallait pas finalement peut-être la combattre ou se dire... En fait, moi, je me détestais d'avoir peur parfois. C'est-à-dire que je l'exprimais, mais d'un autre côté, je me détestais de le ressentir. Mmh. En fait, c'est juste normal. Il faut accepter d'avoir peur et faire avec les armes. On a peur. Oui, on joue moins bien. Oui, on va peut-être pousser la balle ou faire n'importe quoi. Mais au final, à partir du moment où on l'accepte, déjà, on se déteste pas parce qu'on sait que c'est humain. Mmh. Et c'est vrai que ça aussi, je l'ai compris seulement très tard. Donc... Ouais, c'est une sacrée, comme je l'ai dit, c'est une sacrée école de la vie, le sport.
Trop bien. Et puis en plus, ce que tu disais sur parfois on n'est pas qu'un athlète, c'est pas que le tennis, et il faut pas vivre que pour ça. Je pense même qu'on peut le répliquer à, tu vois, d'autres domaines, sur parfois la vie au travail, hein, les personnes qui vont se donner corps et âme dans leur boulot, c'est un des facteurs, parce que c'est multifactoriel, mais qui peut mener au burn-out. Je pense que c'est parfois prendre un peu de recul et se dire ça reste un job. Ce que je fais, quand même mon job me tient à cœur, et ben voilà, faut pas oublier qu'on ne vit pas uniquement juste pour ça, quoi.
Ouais, c'était un message caché un peu pour la société en règle générale, je pense. On est dans une société très ambitieuse et qui a envie de s'épanouir dans sa profession et tout ça. Et c'est vrai qu'on en arrive à des extrêmes où les gens se tuent littéralement au travail, quoi, et se tuent le moral, et ça me fait de la peine de voir ça. Et moi-même, je suis passée par là, donc je le comprends. Mais voilà, ne pas oublier de prendre soin de soi aussi, quoi, de ce qu'on est. Et la méditation, ça nous fait revenir à cette essence-là. De je respire, je prends du temps pour moi, je m'accorde 10 minutes où c'est juste pour moi et j'écoute mes sensations physiques et je suis, quoi. Voilà. Et franchement, c'est magique.
Génial. Bah non, c'est d'autant plus frappant, tu vois, d'entendre ça de la part d'une athlète de haut niveau, parce que, tu vois, enfin, les athlètes de haut niveau, vous incarnez un peu la performance. Et là, du coup, ça nous permet de nous rappeler à tout le monde que tu peux performer et aussi avoir peur parfois. Tu peux performer et aussi avoir des moments de doute, avoir envie de tout arrêter. Et donc, ça permet de prendre du recul et de se rendre compte que c'est normal, quoi. Ouais. Ça fait partie de la vie.
Et je finirais même en disant ça, c'est que montrer sa vulnérabilité est une grande force. Voilà, il ne faut pas l'oublier.
Trop bien. Merci beaucoup, Alizée.
Merci à toi.
Et avant de terminer, est-ce qu'il y a une personne que tu rêverais de voir intervenir sur ce podcast ou pas? Dans tes rêves les plus fous.
Des étrangers, tu peux avoir ou pas?
Tout est possible.
Non, en France, c'est une bonne question. Oh, j'aimerais bien entendre Teddy Riner, moi.
Ok.
Ah oui. Puis en plus, qu'est-ce qu'il est sympa. Je pense qu'il aurait des choses à dire.
Ouais, c'est vrai qu'il
a la pression.
En termes
de performance, on n'a pas fait beaucoup mieux en France quand même.
Ouais, d'être invaincu autant d'années, ça doit mettre une... Là, t'es toujours le favori par définition.
Exactement. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment il a géré ça.
Génial. Bon, merci beaucoup, Alizée. Et puis, merci pour d'avoir pris la parole. Et puis, à très vite.
À très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Moka.care, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur moka.care/podcast. Moka.care, MOKA.CARE. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et pour de vrai. Ciao.